Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Première émission de l'année universitaire, nous allons parler aujourd'hui du 1% culturel, donc des œuvres qui sont acquises par les établissements publics d'enseignement, on va dire d'une manière générale, mais aujourd'hui on va repréciser par rapport à l'Université Lille 1, avec Antoine Matrillon, qui donc est chargé du patrimoine culturel, scientifique, et du patrimoine scientifique aux presses à l'Université Lille 1. Université Lille Nord de France, plus exactement. Antoine Matrillon, bonjour.
Bonjour.
Donc, on peut peut-être expliquer en quoi consiste 1% patrimoine, culture, artistique.
Alors en fait, en 1951, l'État instaure cette nouvelle règle, cette nouvelle loi, qui stipule que toutes les nouvelles constructions du ministère de l'Éducation nationale devront consacrer 1% de leur budget à la création d'une œuvre d'art. C'est ce qu'on appelle donc la règle du 1% artistique. Et en fait, ce dispositif sera ensuite étendu à tous les nouveaux bâtiments publics. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a ces œuvres d'art disséminées un peu partout dans le domaine public. On peut penser aux autoroutes, où on voit ces œuvres d'art, ou dans toutes les constructions publiques. Mais à l'origine, c'est bien dans le cadre des constructions de l'Éducation nationale que cette loi avait été mise en place. Et donc, en fait, cette année, les 60 ans de cette loi.
Non, 1%, ça peut paraître faible, mais quand on voit les montants des constructions, c'est finalement très important.
Tout à fait, puisque n'importe quelle construction se chiffre en millions d'euros, et 1% d'un million d'euros, c'est un budget qui est très intéressant pour travailler pour un artiste.
Alors, obligatoirement, le 1% concerne le choix d'un artiste, d'une œuvre, ou ça peut être différents artistes, différentes œuvres?
Alors, en fait, la loi stipule que ce 1% doit être utilisé pour le financement d'une œuvre faite par un artiste. Il y a une procédure qui est définie dans la loi qui permet ce financement et donc une procédure avec des commissions qui décident et qui sélectionnent les artistes. Voilà.
Alors certains établissements ont fait le choix d'adapter, on va dire, l'œuvre à leur architecture, d'autres d'acheter vraiment des œuvres en tant que telles.
Alors en principe, au départ, alors il y a eu beaucoup de variations dans l'histoire de ce règlement du 1%, mais en principe, au départ, effectivement, il devait y avoir une sorte de corrélation entre le bâtiment et l'œuvre construite, ou une corrélation entre la thématique du bâtiment et l'œuvre construite. Ce qui fait que, par exemple, à Lille 1, université scientifique, on a beaucoup d'œuvres qui ont cette connotation scientifique ou qui ont un rapport avec les sciences.
Donc, qui décide finalement du choix des œuvres et des artistes? C'est collégial?
Alors effectivement, c'est une décision collégiale. Alors évidemment, parmi ces décisionnaires, il y a le maître d'œuvre. Donc dans le cas des bâtiments de l'Éducation nationale, c'est le rectorat. Mais ce travail se fait aussi conjointement avec les gens du ministère de la Culture, donc la DRAC, et les professionnels de l'art et de la culture.
Est-ce que l'architecte aussi a son mot à dire?
Alors, a priori, il fait partie de la commission, oui. Il a son mot à dire, mais il n'est pas le décisionnaire unique. Le principe étant vraiment de laisser la liberté aussi à un artiste de pouvoir s'exprimer dans le cadre de ce projet.
Donc ce 1% s'applique sur les constructions récentes, mais aussi sur les rénovations ou sur les nouvelles constructions?
C'est uniquement sur les nouvelles constructions.
D'accord. Donc, comme les établissements ont des choix à déterminer, est-ce qu'il se fait sur un catalogue, ce choix, ou est-ce qu'il se fait par les relations que ces établissements peuvent entretenir avec des artistes?
Non, a priori, le choix se fait plutôt par l'intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, et donc du ministère de la Culture, qui souhaite, à travers ce projet de 1%, promouvoir certains artistes. Par exemple, à Lille 1, on a des artistes régionaux qui sont représentés, qui sont bien connus dans le milieu artistique local et qui ont plusieurs œuvres disséminées dans la région, par exemple.
Donc ce 1%, c'est quelque chose d'obligatoire. Est-ce que pour autant, quand c'est obligatoire, souvent les gens vont, disent « bon, on va le faire, c'est un peu le passage obligé ». Mais est-ce qu'il y a une réelle réflexion sur ce qu'on va acheter dans un établissement pour justement que ce patrimoine soit mis en valeur, soit fasse partie de l'univers de l'établissement et contribue au prestige peut-être.
Alors ceci dépend beaucoup en fait du propriétaire, puisque une fois que le bâtiment est construit, l'artiste fait son œuvre et la propriété revient au constructeur du bâtiment. Donc les œuvres du campus de Lille 1 sont propriété de Lille 1. Après, j'allais dire, la question de la valorisation, c'est une question de choix du propriétaire, question même de choix politique, je dirais. L'artiste n'intervient plus sur cette œuvre et sur son futur. Et on peut penser aussi notamment au problème du vieillissement de l'œuvre. Et là, c'est aussi au propriétaire de prendre en charge cette question et de faire que l'œuvre ne soit pas figée et effectivement ait un rôle à jouer par rapport au public et par rapport aux usagers de ces bâtiments.
Donc il y a deux problèmes, on va dire. Le problème, c'est la conservation de l'œuvre, et le deuxième, c'est de l'exploitation, de la mise en valeur, de la diffusion, entre guillemets, auprès des publics, que cette œuvre existe et qu'elle mérite un intérêt.
Tout à fait, c'est deux problèmes centraux, et sans être trop négatif, on peut dire que c'est deux questions que la plupart des maîtres d'ouvrage publics se sont très peu posées pendant des années. Il y a eu un âge d'or, entre guillemets, du 1% artistique dans les années 60-70, à un moment où l'État a construit beaucoup de nouveaux bâtiments, et donc beaucoup d'œuvres d'art. Et on commence seulement depuis quelques années à se soucier un peu de ces œuvres qui sont dans l'espace public et qui, avec le recul des années, s'abîment. Et qui n'ont pas forcément été appropriés à leur juste valeur par le public.
Voilà, donc l'université de Lille 1 est d'une manière générale, l'université Lille Nord de France se penche sur cette question de façon active et vous a missionné pour trouver les meilleurs moyens de mettre en valeur ce patrimoine et de le préserver.
Alors effectivement, c'est une partie de mon travail. Mais ce travail a commencé déjà par l'inventaire de ces œuvres. Mm-hmm. Parce que déjà les connaître, savoir ce qu'elles disent, par qui elles ont été faites, quand, dans quels matériaux, etc. Et la mémoire pourtant récente de la connaissance de ces œuvres a été largement perdue. Donc ça a demandé un travail d'enquête que moi j'ai fait dans le cadre de l'Université Lille 1, qui se fait aussi dans le cadre des autres universités, notamment l'Université Lille 3, notre voisine, a fait ce même travail d'inventaire. Et effectivement, maintenant qu'on connaît un peu mieux les œuvres, on rentre dans une deuxième phase qui est celle de la valorisation auprès du public, qui voit ces œuvres mais ne les regarde pas.
Alors, au fil de vos redécouvertes, qu'est-ce que vous avez repéré comme artistes ou comme œuvres qui peuvent être considérées comme majeures dans cette université?
Alors, une œuvre qui sort un peu de la règle du 1%, mais qui est importante pour nous à l'Université Lille 1, c'est le buste de Pasteur, qui est actuellement présenté, alors malheureusement pas au public, mais dans le bureau du président de l'université. En fait, dans les années 70, l'université a souhaité rendre hommage à son premier doyen. Louis Pasteur a été le premier doyen de la faculté des sciences de Lille en 1854, à travers la commande de ce buste. Et la commande a été effectuée auprès de Paul Belmondo, donc artiste très connu, qui a réalisé ce buste qui est de facture classique, mais qui a symboliquement pour nous une grande importance. Dans un registre un peu plus contemporain, original, on peut citer la fresque d'Édouard Pignon, située sur le bâtiment central de l'université, le bâtiment administratif, le bâtiment A3, donc qui se nomme justement « La recherche scientifique est l'idée dominant en toute chose ». Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'orientation scientifique de ces œuvres. Alors en fait, elle représente de manière figurative un combat de coq qui est un thème cher à Édouard Pignon, qui est un artiste local, qui voulait représenter à travers ce thème typiquement nordiste la violence, le déchaînement. Et à travers ce thème, il y a vu effectivement le combat de la rationalité contre l'irrationalité, et c'est pour ça qu'il a rebaptisé cette œuvre « La recherche scientifique et l'idée dominant en toute chose ».
D'accord.
Alors après, nous avons d'autres œuvres non figuratives et qui sont très intéressantes, peut-être plus dans un cadre d'art contemporain.
Donc toutes ces œuvres, est-ce qu'un jour, peut-être cette année, je ne sais pas, elles seront proposées dans le cadre des Journées du patrimoine en découverte?
Alors, dans le cadre des 60 ans de cette loi du 1%, il y a une série de manifestations sur le plan national auxquelles l'Université Lille s'associe en valorisant son patrimoine artistique. Donc cet ensemble de manifestations débute par les Journées du patrimoine, effectivement, qui ont lieu ce week-end, durant lesquelles les œuvres seront visibles et accessibles au public ici sur le campus. Ça se prolongera pour nous de manière peut-être plus importante à partir du mois d'octobre, date de notre inauguration de la rentrée culturelle. Donc à partir les 4, 5 et 6 octobre, nous organisons des parcours de visite guidée de ces œuvres du campus. Donc vous êtes tous invités à vous y inscrire à l'espace culture.
Au-delà de ces présentations physiques au public, est-ce qu'il existe un ouvrage ou est-ce qu'il va exister une plaquette présentant ces différentes œuvres? Et est-ce qu'on pourrait un jour les mettre en perspective avec les œuvres présentes dans d'autres universités?
Alors, en termes de valorisation non physique, comme tu dis, effectivement, on a prévu l'édition d'une petite plaquette à usage ici de l'université présentant ses œuvres, et notamment les situant sur le campus, parce que sur notre grand campus, on a parfois du mal à savoir où elles sont. On va aussi les valoriser à travers un site internet qui est en cours de finition, qui est développé en partenariat avec l'Université Lille 3 et qui présentera les œuvres de nos deux campus. Donc, je ne sais pas si je peux peut-être donner son adresse, donc ça sera patrimoine-artistique.unif-lille1.fr. Donc c'est un site qui sera accessible dans les semaines à venir. Et enfin, dans le cadre cette fois du Presse Université Lille Nord de France, nous allons éditer donc avec toutes les universités de la région un ouvrage sur le patrimoine artistique de nos universités, qui présentera aussi sur 1%.
Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a de construction prévue ou à prévoir dans les universités régionales, mais est-ce qu'on se penche déjà sur ces futures œuvres en acquisition?
Oui, tout à fait. Alors, il y a le dernier 1% de notre campus remonte à 2003, en fait, lors de la construction du LIFL, laboratoire d'informatique. Et ça a été l'occasion de réactiver cette règle du 1% qui avait été assez largement contournée. Notamment dans les années 80-90, et nous comptons bien aussi faire en sorte que cette règle revienne dans les prochaines constructions. On pense notamment au Learning Center qui est un gros projet immobilier à venir pour notre campus, au sein duquel il serait bien d'avoir une belle œuvre. Voilà.
Antoine Madrion, pour mettre en valeur ces œuvres, est-ce qu'il va exister ou est-ce qu'il existe déjà des parcours, des façons de mettre en valeur ces œuvres par l'éclairage ou par un fléchage particulier?
Alors ça n'existe pas encore sur le campus de la Cité scientifique, mais on va le faire aussi. C'est vrai que ces œuvres parfois sont un peu obscures, et n'avoir que leur nom et leur auteur est déjà un élément très intéressant pour nous, je pense, et qui permettra aussi au public de mieux les connaître. Ces petits panneaux seront également accompagnés d'un QR code pour ceux qui connaissent. Donc ça permettra de scanner ce code sur le panneau et ainsi d'avoir un lien vers le site internet dont j'ai déjà parlé et qui donnera encore plus d'informations sur l'œuvre présentée.
Alors c'est vrai que le public de l'université, que ce soit les enseignants, les professionnels qui y travaillent et les étudiants, bon, ils viennent d'abord pour faire ce qu'ils ont à faire. Le passage dans la cité n'est qu'un passage, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les inciter à aller plus loin et avoir une démarche de curiosité par rapport à ces œuvres?
Je pense que déjà il faut les informer parce que un public est captif, mais la quotidienneté de l'usage de ces œuvres fait qu'elles deviennent banales pour celui qui les voit tous les jours, et elles deviennent un élément de paysage comme un autre. Donc nous, effectivement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les mettre sur un piédestal pour qu'elles soient aussi envisagées comme œuvres. Mais d'un côté, c'est aussi un élément intéressant de ces œuvres, c'est qu'elles sont sur le domaine public, et donc ça provoque une appropriation originale et spécifique. On peut penser par exemple à cette œuvre, le passe-muraille, qui est juste à côté d'ici, en face du bâtiment EMA, avec une symbolique intéressante, puisqu'on voit cet homme qui essaye de traverser un mur de toutes ses forces, et on m'a dit que lors des mouvements sociaux, les mouvements étudiants, c'est une œuvre qui est mobilisée par les grévistes. Donc qui, à mon avis, devrait y voir une symbolique intéressante dans le cadre de leur mouvement. Donc, cet exemple, c'est bien pour montrer que l'œuvre est vivante aussi par cet intermédiaire, même si elle a un statut différent d'une œuvre qui serait dans un musée, par exemple, qui aurait quelque chose de beaucoup plus sacralisé.
Donc on a présenté la façon de présenter ces œuvres. Est-ce que pour les mettre en valeur, il y a sur ces œuvres, dans certaines dates d'une période assez longue, des travaux à faire pour les restaurer, pour les remettre en phase avec une vision extérieure?
Oui, alors c'est aussi quelque chose dont on commence seulement à prendre conscience, c'est que beaucoup de ces œuvres sont en mauvais état. Alors c'est inhérent à leur situation en extérieur. Et elles n'ont pas forcément été pensées par les artistes comme étant ou devant être durables. Et avec le recul des années, effectivement, ça complique leur durabilité. Certaines sont très abîmées, demanderaient des gros travaux de restauration. Et encore une fois, là, ça demande à être pris en charge par le propriétaire, qui doit être prêt à investir des sommes qui sont assez importantes, mais qui, en même temps, contribueraient aussi au rayonnement de notre établissement.
Alors pendant les années 70, l'art, du moins ce type d'œuvre, était relativement physique. Actuellement, on est sur des concepts d'œuvres bien élargis, avec de l'audiovisuel, des choses, des installations. Est-ce que là aussi, les choses évoluent et peuvent présenter un intérêt novateur, on va dire?
Mais ça serait tout l'intérêt de réactiver cette règle du 1%, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans les futures créations. Et lié à des futurs bâtiments, c'est vrai que ce serait intéressant de voir ce regard neuf, ces formes neuves d'art, d'expression artistique, intégrées au bâtiment, peut-être en association aussi avec les architectes. C'est vrai que le type d'œuvres que nous présentons, elles sont quasiment toutes issues du début des années 70, elles ont un peu toutes le même aspect formel. Et sortir de ce cadre un peu rébarbatif serait sans doute intéressant.
Il existe aussi des courants artistiques maintenant où on dématérialise l'œuvre.
Tout à fait.
Là, on est sur des...
On rend l'œuvre aussi plus vivante, peut-être.
Plus vivante, ouais. Voilà. Voilà tout le challenge. Donc, si on fait un petit point d'actualité, là, on est en septembre, pour l'année qui va se dérouler, quelles seront les grandes étapes de chantier, on va dire?
Alors, le premier grand rendez-vous pour nous, c'est ces visites guidées dont j'ai déjà parlé, les 4, 5 et 6 octobre, où tout le monde est invité à venir s'inscrire. Ces visites ont du succès, on renouvellera sans doute l'opération un peu plus tard dans les mois qui viennent. Et effectivement, on a ces éditions aussi d'ouvrages et de plaquettes dont on ne manquera pas de vous faire part.
Antoine Matrion, merci pour ces informations. On va profiter aussi du 20e anniversaire de l'Association de solidarité des anciens de l'Université de Lille pour parler de cette journée d'études qui aura lieu le 15 septembre, donc jeudi, à l'amphithéâtre du Cerlin.
Tout à fait. En fait, l'Association des anciens souhaite valoriser la mémoire de notre université, son patrimoine, à travers cette journée d'études qui abordera, discipline par discipline, comment s'écrit au jour le jour l'histoire de notre université. Ça rentre un peu dans le même processus qu'on a décrit pour les œuvres d'art, à savoir que l'université a un patrimoine historique dont elle n'a pas forcément conscience et qu'il lui appartient, à notre avis, de le conserver et de le valoriser. Beaucoup de ces anciens de l'université ont entrepris ce travail qui n'est pas facile, mais qui, à notre avis, est très utile. Donc on vous invite nombreux à venir à cette journée d'études pour écouter les témoignages de ces personnes qui écrivent l'histoire de notre université.
Alors, c'est ouvert au grand public, c'est au campus, bien sûr, de la Cité scientifique de l'Université Lille, et c'est au bâtiment P5, P comme physique, hein, c'est l'amphithéâtre du CERLA, C-E-R-L-A, c'est pas loin de la station de métro Cité scientifique.
Et le soir, à partir de 17h30, il y a une séance de clôture de cette journée d'études qui, elle, aura lieu à l'espace culture.
Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'état des lieux et les perspectives donc de ce 1% qui s'est dispersé au fil des années mais qui se retrouve maintenant en position d'être mis en valeur. Profitez-en, rendez-vous le prochain, c'est les journées du patrimoine. Donc on peut peut-être dire à quel moment il y aura quelque chose là sur le Lila ce week-end.
En fait, pendant les journées du patrimoine, il y a également à l'espace culture une exposition d'anciens appareils scientifiques. Mm-hmm. Donc l'espace culture reste ouvert ce week-end pour être accessible au public pour cette exposition. Et dans le cadre de cette exposition, les gens auront des informations aussi sur le 1% de l'université.
Voilà, rendez-vous à quelle heure à l'espace culture?
Alors à partir de 10h, samedi et dimanche.
Merci Antoine Matrion.
Merci.
Bonne journée. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, c'était Lille Info, le magazine de Radio Campus consacré à l'Université Lille. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à 17h30.